40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus.
Bonjour Charlie Weber, bonjour et à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est bon, on l'a dit, c'est 40 mètres, les gars.
Ouais, le quiz.
Eh oui, ouais, j'espère que c'est rentré.
Ouais, quand même, ouais.
Aujourd'hui, le thème, mon petit Charlie, c'est...
Les années 2000.
Les années 2000, eh, donc oui. De 2000 à 2010.
Oui, on s'arrête là, on a la décennie de 2000 à 2010.
Voilà, très bien, efficace. Bah oui, écoutez, pourquoi pas.
La petite question twist. Allez. Oh,
accompagné de ces hurlements, la question twist, c'est vous qui décidez. Charlie Weber lance le jingle avant une question. Et sur la question suivante, eh bien, celui qui répond faux sort, celui qui répond juste rentre. Celui qui répond faux donne 80 000 euros à celui qui a répondu juste, par exemple.
Ça commence à devenir sérieux cette affaire.
Bah ouais.
Beaucoup moins sérieux, mais vraiment beaucoup plus cute. On a eu un message de la part de Florian et de son fils Gabriel. Ce sera bien sûr le joker du jour. On l'a déjà fait, mais c'est tellement cute qu'on vous le passe et derrière on vous le refera. Allez.
Une perle en bourre.
C'est bien déjà.
Voilà.
Il refuse la perlembourre à 2 ans.
Qu'est-ce qu'il est mal élevé cet enfant.
Donc le clin d'œil à Florian et à Gabriel qu'on embrasse. Merci d'être à l'écoute. C'est bien sûr, on revient en arrière. Une perlembourre. Non. Voilà, c'est le joker. On sait que vous l'aimez bien celui-là. Donc on y va. Allez, c'est parti. Première question, c'est la vôtre, Christophe.
Petite question football. Si vous souhaitez jouer votre joker, c'est maintenant. Donc, une petite question football pour les amoureux du ballon rond. L'Euro 2008, vous vous en souvenez?
Bien sûr.
Spoiler, c'est l'Espagne qui a gagné.
Super.
Dans quel pays, au pluriel, la compétition s'est-elle déroulée?
Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'était une des premières fois où c'était dans deux pays, non? C'est ça?
Peut-être, je sais plus.
On n'a pas forcément l'historique.
Bah oui, vous me posez des questions que je n'ai pas.
Dès le début, ça commence fort.
Mais j'avais oublié.
Bah moi aussi. Mais alors, totalement.
Et en plus, ce ne sont pas forcément les pays auxquels on s'attend.
Bah oui.
L'Autriche et la Suisse.
Ok.
Eh oui, l'édition 2008 du championnat d'Europe de football s'est disputée du 7 au 29 juin 2008 en Autriche et en Suisse. Le sortant, la Grèce, a remis son titre en jeu face à 15 autres nations, dont les deux pays organisateurs. Il s'agissait de la 13e édition du championnat d'Europe de football. Elle a été remportée par l'Espagne, vainqueur de la finale 1-0 contre l'Allemagne. Si les Pays-Bas, la Croatie, la Russie, la Turquie, l'Allemagne et l'Espagne ont développé un beau jeu... Ah, ça, c'est Wikipédia. Attention, ils avaient envie d'insister.
Ouais, c'est ça.
Ce n'est pas le cas de la Grèce et du Portugal, tenant du titre et finaliste de l'édition précédente, 2004, qui s'était joué...
Vous y étiez.
Au Portugal. J'y étais, les gars.
Portugal, allez.
Exactement. J'ai loupé la finale puisque Praille, notre valeureux pas champion, avait oublié les billets en Alsace.
C'est pas vrai.
Le jour de la finale, il me fait « on peut pas y aller, j'ai oublié les billets ».
C'est super. Du coup, vous avez bu pour oublier.
On a bu, oui, bien sûr. Donc le Portugal et la Grèce n'ont pas très bien joué, ainsi que l'Italie et la France, respectivement championne et vice-championne du monde en titre, qui ont beaucoup déçu. Pour la première fois de l'histoire, aucun pays hôte de la phase finale ne figure dans le dernier carré de la compétition. D'accord. Pour info, le parcours de la France prend fin dès le premier tour, puisqu'elle termine bonne dernière du groupe C, derrière les Pays-Bas, l'Italie et la Roumanie.
Sympa.
Deux défaites, un match nul.
Ouais.
C'est 0-0 contre la Roumanie. Sinon, c'est deux défaites contre les Pays-Bas et l'Italie.
Incroyable. C'était pas la meilleure époque du football
français.
C'était
le ventre mou de l'équipe de France.
Ouais. C'était après l'Afrique du Sud, le bus. C'était 2010, non, c'est ça? 2010, c'était en Allemagne, peut-être?
J'ai un doute.
Je sais plus. Je sais pas pourquoi je vous pose
cette
question.
Bon. Surtout moi, je m'en fiche.
Allez, je vous mets le joker en audio.
Une perle en bourre.
Ah, le nom, il est trop cute. Il est trop cute.
Ouais, les enfants savent dire non avant toute autre chose.
C'est vrai. Quel site internet que vous visitez quasiment quotidiennement, Christophe?
Oui.
Je pense, ou que vous avez visité au moins une fois dans votre vie, hein, vous aussi que nous écoutez. Et surtout que nous utilisons à foison pour écrire toutes ces questions, a vu le jour le 15 janvier 2001 grâce à Jimmy Walls et Larry Sanger. Mais quel est ce site?
J'aurais évidemment pas su comme ça.
C'est vrai.
Mais la réponse est évidente quand on la lit.
Quel est le site que vous... Dès que vous avez besoin de savoir quelque chose, vous allez sur ce site.
Ah ouais, bah voilà.
Bon, bah là, oui, okay.
Alors après, il vous dirait TikTok.
Non, il y a aussi le forum.
Ah, le forum
hardware.
Forum hardware,
ouais. C'est ça. Non, c'était Wikipédia. Wikipédia.
Ouais.
Alors, selon Wikipédia.
Ah oui, d'accord.
Wikipédia sur Wikipédia est une encyclopédie en ligne collaborative. Mais c'est ça, Oh là.
Ouais, Colarochaud, Bative.
Est une encyclopédie en ligne collaborative, généraliste et multilingue créée par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001. Il s'agit d'une œuvre libre, c'est-à-dire que chacun est libre de l'amender et de le rediffuser, géré en wiki dans le site web wikipedia.org grâce au logiciel MediaWiki. Mm-hmm. Elle permet à tous les internautes en fait d'écrire et de modifier les articles. C'est ça le côté wiki. Et elle est devenue en quelques années l'encyclopédie la plus fournie, la plus consultée au monde. On y va tout le monde y va.
Oui.
L'anglais a été la première langue diffusée. Et Wikipédia en anglais compte plus de 6,5 millions d'articles. C'est énorme. À la fin de 2022, Wikipédia en français compte près de 2,5 millions d'articles la même année. C'est pas mal non plus. Wikipédia existe en plus de 300 langues dans une apparence unie, mais avec de grandes variations du contenu. Et alors, le nom Wikipédia.
Alors, ça vient d'où ?
Eh oui, est un nom valise. On en a déjà parlé,
ça. Ok, oui, bien sûr.
Issu de la fusion de deux termes wiki, donc type de site web collaboratif, d'après le mot hawaïen wiki-wiki, qui signifie rapide.
Ok.
Voilà, comme ça, il y a plein de trucs.
C'est sans doute la même racine que waka. Waka.
Peut-être. Se référant au fait que l'encyclopédie a toujours vocation à s'améliorer rapidement et à être constamment active de son mode de fonctionnement. Epédia, dérivé du mot grec peidia, instruction, éducation. Voilà.
Donc, merci.
Merci à Wikipédia pour toutes ces infos sur Wikipédia.
Ah bah oui, sans vous, on ne serait rien.
C'est ça. Une perle en bourre.
Une perle en bourre.
Non.
Cinéma.
Cinéma.
Étienne Chatiès nous a offert plusieurs classiques comme La vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel ou encore Le bonheur est dans le pré. En 2001, il sort son quatrième long métrage. Son titre est désormais Rentré dans le lougage.
Courant. Ça marche aussi.
Eh oui, au Portugal. Portugal aussi. Quel est le titre ? Quel est ce film ? De quoi parlons-nous ?
C'est vrai que c'est rentré dans le langage courant.
Ah bah carrément.
Clairement. Ah, tu fais encore ton.
Eh ouais, ton voilà. Connard. Très bon film d'Étienne Chatiès, Connard, mais il est pas sorti en 2001. C'est pas ce film-là, mon
97, je crois, 97. Non, bien sûr, c'est.
Tanguy.
Bien sûr.
Eh oui, 4 310 477 entrées dans le monde. Le phénomène Tanguy est un phénomène social selon lequel les jeunes adultes tardent à se séparer du domicile familial. Cette dénomination vient du film Tanguy, donc d'Étienne Chatiès, dont le personnage éponyme s'enferme dans ce type de situation. Une nouvelle expression est ainsi apparue pour désigner la classe d'âge de ces jeunes gens, la génération Tanguy.
C'est fou, quand même.
Et l'idée du film, suggérée à Étienne Chatiès par Yolande Zaubermann, trouve en fait sa source dans un fait divers paru dans l'hebdomadaire Courrier International.
Génial.
En Italie, une femme ayant essayé de chasser son fils de 31 ans hors de son toit se vit condamnée par la justice. Il faut savoir que c'est pas unique, puisque cette situation se retrouve environ dans 900 procès par an. 900 procès par an.
Faut partir, monsieur.
D'enfants qui font un procès à leurs parents, ou peut-être vice-versa. Mais
incroyable.
Quand même, 900 par an, c'est énorme.
C'est drôle.
Et par ailleurs, le personnage de Tanguy est partiellement inspiré d'un ami réel du cinéaste, mais qui a, lui, bel et bien quitté ses parents depuis longtemps. Alors, les rôles principaux, on le rappelle, Sabine Azéma dans le rôle d'Edith Getz, André Dusselier dans le rôle de Paul Getz.
J'adore.
Et Éric Berger, l'inénarrable
Breitling dans Quatre garçons plein d'amis.
Exactement, qui joue le rôle de Tanguy.
Bien sûr, qui a fait une belle carrière, Éric Berger.
Ah bah oui, oui.
Ah ouais. C'est vrai.
Voilà.
Mais merci.
Non,
merci.
Mais quand on a besoin de votre avis cinéma...
Cinéma. Allez, sport, question sport, Christophe.
Ouais, sport, Christophe.
Question Jeux Olympiques. Citez-moi toutes les villes.
Ok.
Qui ont accueilli les JO hiver.
Sérieux ?
Hiver et été pendant la décennie.
Vous êtes un malade.
Si.
En 30 secondes.
Un peu plus, allez, on vous laisse un peu de temps.
Vous auriez dû dire prenez un papier, quelque chose.
Alors prenez un papier, quelque chose.
Ah bah super. Un effet ralgan.
Oui, aussi. Entre 2000 et 2010, hiver et été, un point par bonne réponse. On vous laisse un peu le temps.
Ah bah oui, merci.
Oui, bon, il y en a eu combien ? Il y en a eu 1, 2, 3, 4,
5, chiffres.
6, il y en a eu 6.
C'est
on y va ?
Beaucoup quand même.
Ils ont peut-être fait pause, vous pouvez faire pause, vous faites pause. Vous êtes de retour, ça fait plaisir. Sydney a été la première ville à accueillir les Jeux Olympiques de la décennie 2000-2010, puis Athènes, et Beijing, ensuite, en 2008. Et ça, c'est pour les Jeux d'été. Donc, Sydney, Athènes et
Pékin.
Beijing, et Pékin, oui. Et pour les Jeux d'hiver, c'est Salt Lake City, Turin et Vancouver. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc, la... En 2000, c'était Sydney. En 2004, c'était donc la Grèce, la Chine en 2008, les États-Unis en 2002, l'Italie en 2006 et le Canada en 2010.
Rappelez-nous les pays alors que vous demandiez les villes. Merci.
Oui, bon, ça va.
Bon, et alors, est-ce qu'on a bien réussi ?
Bah, pas vraiment. Ah. Pas vraiment. 31 médailles d'or entre 2000 et 2010 pour la France au JO d'été.
Ouais.
Ce qui est pas beaucoup. Hein. Je pense que c'est les États-Unis font ça
en une
Olympiade. Et 9 médailles d'or. Pardon, je ris, mais c'est pas drôle. Pour les JO d'hiver.
Aïe.
Ouais. Ouais. On n'est pas très... Je pense que c'était uniquement biathlon, puisqu'on a dû les avoir, ces médailles.
Oui, et en bataille de boules de neige.
Peut-être également.
Une perle en bourre. Une perle en bourre.
Non.
C'est le joker. Si vous voulez le jouer, vous êtes obligé de faire un enfant,
oui.
Désormais.
Oui.
C'est un joker enfant. Alors que les internets attendent avec une grande impatience le premier trailer de GTA 6, qui devrait être diffusé début décembre. Souvenons-nous de GTA 3 qui fut le premier en 3D.
Ah ouais.
Alors, est-ce que oui, en tout cas le premier qui n'était pas en vue du dessus.
Ouais, c'est ça.
Parce que les autres étaient peut-être déjà en 3D, mais en tout cas voilà. Sorti au début des années 2000, le jeu a immédiatement conquis le public. Vous souvenez-vous du nom de la ville que nous pouvions arpenter dans le jeu ?
Pas facile. Pas facile, mais c'était un sacré bon jeu quoi.
Ah bah oui.
C'était tellement révolutionnaire.
Ah bah oui.
Ah ouais, c'était fou. J'ai fait aucune mission. Je ne faisais que rouler et rouler sur des gens.
Ah non, ouais, quand même. Je faisais l'émission basse. C'était sympa quand même, l'émission.
Oui.
Liberty City.
Ah, j'aurais pas pu vous dire.
Le jeu simule la vie d'un criminel se déplaçant librement dans la ville de Liberty City. Le joueur a la possibilité de choisir entre plusieurs missions ou peut se contenter, comme un connard, de se promener dans la ville. L'histoire en elle-même ne représente qu'une partie du jeu, qui ne se termine jamais réellement. Ouais, c'est vrai, on peut continuer à jouer ad vitam aeternam. Les premiers épisodes de la série, qui proposaient une vue du dessus, n'ont pas eu le même impact que GTA 3, qui a eu un succès dès sa sortie, devenant même l'un des jeux les plus vendus de 2001. La violence et le sexe présents dans le jeu ont été une source de polémique et ont mené à des problèmes judiciaires. Claude Speed.
Ah, le fameux.
Personnage incarné par le joueur, on ne sait pas grand-chose sur lui, à part qu'il vivait à San Fierro, l'une des trois villes de GTA San Andreas. Le personnage est muet.
Ah ouais ?
Ah, j'avais oublié.
Moi, pareil.
Et les radios,
c'est
important, les radios, parce que c'est vrai que la bande originale de ce jeu est incroyable. Alors, il y avait Hit Radio qui faisait de la pop-rock, Double Clef FM, musique classique, KJ Radio, dub.
Rags
et
FM.
Ce qui était sympa, que j'ai découvert en recherchant, c'est que Flashback 95.6, c'était la bande originale du film Scarface.
Ah ouais ?
Qui passait en boucle. Alors, je m'en étais rendu compte qu'en mettant les radios, mais j'étais pas allé à ce point-là en sachant quelle radio diffusait quoi, et ben Flashback 95.6 diffusait la bande originale de Scarface.
Trop cool, bravo.
Ah ouais, bravo.
Non mais c'était bien quand même. Et là le 6, par contre, alors je sais pas si c'est des vraies images qui ont fuité, mais ça risque d'être...
Non, il n'y a pas de vraies images. Des images qui ont fuité d'un... Oh mince, du bordel qui permet de faire... Oui, alors super. Comment on appelle ça?
Ce bordel qui
tu
permet
couperas,
de...
Mais oui, non, mais...
Non,
le...
je couperai pas.
Oh.
Bon, enfin, on a eu des images, quoi.
Non, mais c'est pas des images du jeu. C'est l'image de la machine sur laquelle ils vont pouvoir construire le jeu, en quelque sorte.
D'accord, ok. Donc, une image de la de l'ordinateur qui permet...
Pas de l'ordinateur, mais de la... Je trouve pas le mot, pourtant, je connais bien ce mot. Mais voilà,
bon
allez vous faire voir. Je me mouche, maintenant.
Et ça, non plus, je comprends pas.
Je m'en fous.
Il faut savoir que Christophe, en plus, utilise toujours des mouchoirs à la menthe. Voilà, là,
des mouchoirs verts. Et après avoir mouché, je sniffe le mouchoir.
Ouais, pour reprendre un petit peu. Oui, on est très heureux de vous partager ce
moment-là.
Mais
oui, voilà.
Allez. Question simple pour cette question twist. Qu'est-ce qu'on fait avec la question twist d'ailleurs ?
On fait ce qu'on veut.
Voilà, c'est vrai. Pourquoi on s'embête à dire des choses ? Faites ce que vous voulez avec
On vient de perdre 20 minutes
sur des mouchoirs. Question simple, une question de pop culture. Ouais, pop, P-O-P-E. Vous voyez un peu la blague ?
Vas-y.
Ouais. Quel pape nous a quitté le 2 avril 2005 ? Voilà, pop culture, vous voyez un peu le...
Ouais, ouais. C'est bah oui, parce qu'en anglais, pape, c'est
voilà.
Pop, the pop.
Je suis très content.
Le grand pop.
Ouais. Bon, 2005, vous en souvenez ?
Oui, mais franchement, quand j'étais gosse, je le savais. Bah, en même temps, il n'y en a eu qu'un quand j'étais gosse.
Bah, c'est ça.
Mais maintenant, je ne suis plus trop. Franchement, je me suis arrêté à la saison 2, moi.
Ouais, c'est vrai. Bah, Jean-Paul II. Justement,
voilà, justement, c'est ça. Je me suis arrêté à la saison 2.
C'est vrai que c'est le seul pape qu'on a connu quand on était plus jeune. Le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II meurt après 26 ans, 5 mois et 18 jours de pontificat. Son prédécesseur, Jean-Paul I, avait occupé cette fonction seulement 34 jours.
Ah ouais.
Voilà. Carole Joseph Wojtyla, c'est le nom de Jean-Paul II, est né en Pologne. Pologne est mort le 2 avril au Vatican, en 2005 du coup, un prêtre polonais évêque puis archevêque de Cracovie, cardinal élu pour être le 264e pape de l'Église catholique le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II. Plusieurs faits intéressants quand même autour de Jean-Paul II, ça c'est toujours sympa. C'est le premier pape non italien depuis près de 400 ans.
Eh ben.
Ça a dû changer, hein. Il se dit, ah, un polonais, ok, bah, on prend le polonais. Il a été le premier pape dont le visage est apparu sur un billet de banque.
Super,
en Pologne,
là on sent que ça part en vrille.
Voilà. Et il fut le premier pape après Saint-Pierre à franchir le seuil d'une synagogue. Voilà. Mmh. Et sa passion pour le sport, en particulier pour l'alpinisme, le ski et la natation, lui valut le surnom de athlète de Dieu.
Ah ouais.
Voilà.
Okay.
À savoir que le pape François, actuellement, Francesco, est argentin, est un grand fan de foot et de Messi. Et
pour avoir visité... donc il aime la triche. Oh, et les pénaltys.
Non mais c'est drôle parce qu'au Vatican en fait il y a des, vu que c'est un grand fan de foot, dans le musée du Vatican à la sortie il y a des maillots de Messi signés c'est drôle. Allez, question numéro 7.
Question impossible, j'annonce. Non là vraiment.
Super.
Non vraiment. Si vous arrivez à répondre à cette question, c'est que vous êtes le plus grand spécialiste de France de la télé-réalité. Okay. Et dans ce cas-là, je suis pas certain que ce soit une raison de se vanter.
C'est vrai.
Ne jouez pas votre joker.
Non.
Quelle est la première émission de télé-réalité française diffusée à la télé?
Ah ouais, non mais là c'est... Bah je vois la réponse du coup, impossible.
Impossible. Non mais je ne savais pas. Et c'est pas la première fois que je fais des recherches sur la télé-réalité, on a déjà posé des questions, tout ça, je n'étais jamais tombé là-dessus.
Par contre, si vous avez la bonne réponse, dites-nous-le, on vous envoie des chocolats, voilà.
Aventure sur le net.
Aucune idée.
Bah oui, ouais. Jamais entendu parler. Non. Aventure sur le net est une émission télévisée française de télé-réalité produite par KM Productions et diffusée sur TF6.
TF6,
oui, qui était une chaîne câble satellite qui regroupait TF1 et M6.
Ah
d'où
ouais
le nom TF6. Oui, oui, c'était le premier petit mariage entre TF1 et M6 à partir du 8 janvier 2001.
Ouf.
Cette émission est considérée comme la première émission de télé-réalité diffusée en France 4 mois avant le Loft.
Pas loin.
Eh oui, mais 4 mois avant le Loft.
D'accord.
Des émissions quotidiennes présentées par Jérôme Bertin, qui c'est un comédien qui joue désormais dans Plus belle la vie et qui sera du casting parce qu'on en parle beaucoup désormais. Hein, j'ai jamais vu un épisode, mais bon, on est obligé d'en parler dans chaque épisode. Donc c'était chaque soir du lundi au samedi à 20h, permettait de retracer les péripéties des aventuriers. Le principe se rapproche de celui de Big Brother.
Big Brother.
Trois équipes différentes, les violets, les bleus et les jaunes, sont enfermés dans trois appartements distincts, complètement vides, qu'ils n'ont absolument pas le droit de quitter sous peine de disqualification. Chaque équipe dispose seulement d'un ordinateur connecté à Internet dont le temps de connexion sera variable en fonction des épreuves remportées afin de pouvoir se meubler et d'un budget de 15 000 francs.
D'accord.
Et mais c'est en 2001, fou. Qu'est-ce que tu fou. Commandes sur Internet?
Il
n'y a pas Amazon?
Ah non.
Non, mais on voyait des pubs déjà. Oui, la transition Internet grâce au e-business. Sauf qu'il n'y avait rien en 2001 sur Internet.
Il n'y avait rien, frère.
Tu pouvais télécharger du porno,
oui. Beaucoup.
Mais ils n'étaient pas meublés pour autant, les gars.
Ouais, bon, après, ça occupe.
Chaque session de jeu dure 3 semaines durant lesquelles de nombreuses épreuves ont lieu afin de départager les équipes et leur donner du temps plus ou moins long de connexion internet.
Incroyable quoi.
2 caméras par appartement filmées 24 heures sur 24, donc les appartements ne devaient pas être grands non plus. Les faits et gestes des candidats tout en respectant leur intimité. Bon, faut rappeler quand même que c'est, je sais plus, je crois que c'est après le premier Loft que il y a eu des sessions sans caméra,
parce qu'au début
ils filmaient tout et ils se sont rendu compte que c'était vraiment trop inhumain en quelque sorte.
Un peu, ouais.
Les gagnants, c'est l'équipe violet qui a gagné, Catherine, Michael et Alain.
Ah ouais,
si vous nous écoutez, dites-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont gagné, on sait même pas ce qu'ils ont gagné. En tout cas, sérieusement, si vous avez bien répondu à cette question, c'est que...
Ah,
ou si vous avez le moindre souvenir de cette émission, dites-le nous.
Ah ouais, non, vraiment, on vous envoie des chocolats. Je l'assumerai.
Très bien.
On vous envoie des chocolats. Ne mentez pas, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas un budget illimité. Mais en tout cas, bravo, s'il y a des images sur YouTube, j'aimerais bien voir ça.
Allez, j'ai pas cherché.
Question numéro 8. Allez, le petit joker.
Une perle en bourre.
Non, il en veut pas de cette perle en bourre.
Je suis sûr qu'il y avait la mère à côté qui voulait lui filer des brocolis. C'est
non.
un montage, ça. Arnaque et compagnie.
Bien joué, Florian, en tout cas, et bisous à Gabriel. Question cinéma.
Ok.
M'avais pas suivi là.
Non, parce que c'est pas comme ça.
C'est
allez-y.
Si, je voulais que je refasse.
Allez.
Cinéma. Mais pas vraiment cinéma. En
ah
fait.
Bon.
Ah,
d'accord.
Mais
pas
quand
vraiment.
Même. Mais quand même un peu.
Un petit peu.
Retour en mars 2000. Voilà, ça fait 23 ans. Voilà. Quelle récompense de cinéma qui aurait dû être remise quelques jours plus tard ont été volées avant la cérémonie.
Oh.
Vous vous souvenez de cette histoire?
Non.
Eh ben moi non plus.
Bah oui, il y a 23 ans, mec. On c'est un peu âge, passé des choses dans notre vie.
Oui. Et des choses qui nous ont fait oublier certaines choses.
Bah oui. On est putain, l'anecdote est longue.
Oui, c'est un peu long, mais
putain,
c'est rapide.
Il y a deux pages, ouais, c'est rapide.
Oui. Les statuettes des Oscars, en fait.
Ils les ont chourées.
Ouais, les 55. En mars 2000, on a découvert la disparition des 55 Oscars, les statuettes, qui devaient être utilisées quelques jours plus tard pour la 72e cérémonie. Les statuettes étaient conservées en attendant leur livraison à l'Académie dans un entrepôt de la société de transport Roadway Express.
Ah oui.
Le fabricant R.S. Owens & Company a dû donc cravacher pour produire les statuettes manquantes juste à temps pendant que la LAPD partait sur les traces des voleurs.
Ah, ouais.
Et c'est en fait un clochard nommé Willie Fulger qui découvrit le butin. C'est pas lui qui les a
volés. Ah oui, parce que je me disais qu'est-ce qu'il aurait pu en faire. Ça prend de la place pour rien. Quoi.
Il a découvert tout ça jeté dans une grosse poubelle à l'arrière d'un supermarché de Koreatown, dans le centre de LA. 52 statuettes avaient été jetées par les voleurs qui s'étaient dégonflées après leur larcin. Ils furent très vite démasqués. C'était bien sûr deux employés de Roadway Express qui étaient bien placés pour piquer les statuettes. Voilà. Bon, en revanche, The Hollywood Reporter vient d'apporter des éclaircissements quelques années plus tard.
Okay.
En fait, les statuettes étaient celles destinées aux Oscars de l'année suivante, car elles sont toujours fabriquées un an à l'avance pour prévenir justement ce genre d'accident. Donc le coup de sang pour fondre les nouvelles statuettes, c'était du bluff. Un petit coup de buzz.
Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Et ça se trouve, les deux mecs, ils les avaient pas vraiment chourés. C'est
peut-être
le patron qui a...
Surtout qu'ils ont pas été virés. Ils ont eu 6 mois de...
Ah oui, c'était une mise en scène, en fait.
Peut-être.
Les gars, ils se sont dit, personne ne connaît Roadway Express Unlimited, là.
Peut-être.
Comme ça, à partir de là, tout le monde saura que c'est nous qui faisons les Oscars. Donc allez-y, les gars.
Peut-être.
Foutez ça dans une poubelle.
Ouais, c'est ça. Et on file 50 balles au SDF pour qu'ils... Enfin, les statuettes retrouvées ont été détruites, puisqu'en fait, comme le précise le représentant de R.S. Owens, l'Académie n'aurait jamais autorisé la remise d'un trophée volé.
Ah ouais, voilà. Mais...
on s'aurait fait un bon film, quoi. Non,
non.
Même
bah non. Non. Quoi, super.
Ils ont volé, on l'a retrouvé. Ouais, ouais, merci, bonsoir.
Et en fait, c'est de la merde. Générique.
Allez, on y va.
En 2009. Le poète-chanteur Francky Vincent, surnommé Francky Braguette, revient dans nos oreilles avec un single. Dans cette chanson, il prétend que l'on veut une partie de son corps. Mais de quelle partie s'agit-il?
Ouais.
Vous vous souvenez de la chanson?
Bien sûr.
C'est vrai?
Bien sûr.
Ah, je m'en souvenais pas.
Ouais, ouais. Il a d'ailleurs été nommé...
Oui, chevalier des maîtres et des lettres et des chiffres et tout ça, quoi. C'est son zizi.
Bien sûr.
Charlie.
Tu veux mon zizi?
Oui, 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 oui.
Je vais te le donner.
Oui, 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 oui.
Tu veux mon zizi?
Oui, 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 oui.
Je vais te le donner.
Oui, 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 oui.
Tu veux mon zizi?
Oui, 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 oui.
Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi?
Oui, 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 oui.
Je crois qu'on a compris le message.
Non,
oui,
oui, oui, oui, oui.
Oui,
tu
oui, oui, oui.
veux mon zizi, oui. initialement intitulé « Viens ce soir », bah, c'est-à-dire on n'a pas trop entendu « Viens ce soir » dans les paroles.
Non, non, non.
Alors que tu veux mon zizi, vraiment, ça, bon, on sent que c'est une part importante du cheminement de création.
Et de son corps, on l'espère pour lui.
Oui, certainement. Oui, oui, oui. Bon, c'est une chanson française, hein, si vous doutiez, c'est quand même le cas. Écrite et interprétée par l'artiste français Francky Vincent et composée par Christian Yeye. Bah, écoutez, on embrasse Christian, il s'appelle Yeye, ça vous fait marrer.
Bah oui.
Sorti en juin 2009 sous forme de single, la chanson s'est classée dès le 6 juin 2009 à la 6e place des charts et a été proclamée comme l'un des tubes de l'été, tu veux mon zizi en 2009. Tu te rendais compte, TikTok avait existé en 2009, les chorégraphies qu'on aurait eues, quoi. Mais cette chanson date en réalité de 2004.
Incroyable.
Eh oui, là, les masques tombent.
Eh oui,
Francky Vincent connaît une traversée du désert depuis 2 ans. Son contrat avec Vagram Music ayant pris fin, il ne trouve pas d'autres grandes maisons de disques et n'est finalement distribué qu'en Guadeloupe, chez Debs Music. Ainsi, dans l'album « Ça va chauffer » de 2004, paraît la chanson « Viens ce soir » connue aujourd'hui sous le titre de « Tu veux mon zizi ». Mais l'album est un échec et passe inaperçu. Et c'est en retrouvant son ancien producteur exécutif, dont il s'était séparé en 1997, Christian Lester, que Francky Vincent a l'occasion de réapparaître dans le paysage médiatique et de signer avec la Major Universal Music.
Incroyable.
Pour promouvoir... Aïe, aïe, aïe. Pour pouvoir sortir le tube « Tu veux mon zizi » en 2009 en France métropolitaine, annonçant la sortie d'un double album best-of intitulé « Mon fest-of ».
Eh, dis donc, c'est rigolo, lui, hein.
Alors, j'ai quand même au chant Francky Vincent,
Francky.
Au cœur Anne Calvert et Marina Albert.
Celles qui font « Oui, 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 oui ».
À la guitare, j'imagine, Thierry Delaney.
Okay.
Et à la basse, Frédéric Wurtz.
Frédéric Wurtz.
Ouais, voilà, c'est aucun des Wurtz qu'on connaît, mais ils sont partout, les Wurtz, hein, et vraiment pour des bonnes choses. Synthétiseur, Frédéric Wurtz. Et drums et percussions, Francky Vincent et Frédéric Wurtz.
Il est partout, Fred Wurtz. Fred Wurtz.
Ah ouais, bah lui, ça a dû lui faire plaisir, hein, une chanson sur la saucisse.
Magnifique, tu veux mon zizi. C'est toutes
oui,
ces belles...
Oui, 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 oui.
Tu veux mon zizi.
Tu veux mon zizi.
Oui, 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 oui.
Oui, 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 oui.
Allez, petite coupe à la Alain. Question numéro 10. Question télévision. Début 2000,
mais
fin des années 90.
On a déjà pas parlé 15 fois de ça.
Si, mais bon, c'est mythique.
C'est mythique.
C'est mythique.
J'ai jamais regardé une seule soirée.
Ah bon?
Non. Okay. Allez-y.
Quel était le nom des soirées du samedi soir sur M6, hein,
oh là là.
Indice, vous voulez le générique?
Ah oui, il y a un générique.
Allez, bien sûr. Générique de qualité.
Pas l'enregistrement.
Non,
malheureusement.
L'enregistrement
hein,
était dégueulasse.
Vraiment, bah, c'était, le mec a fait ça sur son magnétoscope. Hein.
Bah oui, moi je pense que c'est comme ça qu'il l'a récupéré. C'était dans début 2000. Donc.
Ah, ça a dû rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. J'avoue,
sûr.
Moi, pas du tout. Encore une fois, jamais vu.
Bah, non, mais vous connaissiez
pas M6. Bien sûr, oui.
Bien sûr.
Oui,
la fameuse trilogie du samedi.
Mais oui.
Est un bloc de programmes diffusé à partir du 6 décembre 97. Donc c'était 2000, mais ça s'est fini dans les années 2000
ouais,
jusqu'en 2008.
Ça, ouais.
Jusqu'en 2008. Sur M6, adapté du format américain Trilogy, diffusé sur NBC. Alors avant la trilogie du samedi soir, il y avait les samedis fantastiques avec X-Files, par exemple, à partir de 95. Mais à partir du 6 décembre 97, M6 décide ensuite de créer la trilogie du samedi, les premiers programmes diffusés, c'était le Caméléon, Dark Skies.
Alors ça, je connais pas Dark Skies.
Moi non plus, mais Profiler, oui, ça me parle
oui.
aussi. Ça. Après l'arrêt de Dark Skies, justement, c'est peut-être pour ça qu'on le connaît pas. La série est rapidement remplacée par The Sentinel. C'était pas mal, ça, j'aime
jamais
bien.
Vu.
Plus tard, X-Files sera diffusé le jeudi soir à partir de la cinquième saison, et Stargate SG-1 est envoyé le vendredi soir avant de revenir. Et en gros, c'était un gros bordel. Il y a plein de séries qui se battaient, mais il y a eu également Buffy contre les vampires, Alias, les 4400, Charm, Roswell, The Profiler, 40 séries en tout qui font partie de la trilogie du samedi.
Eh oui, oui, voilà. Oui, ça a marqué
bah,
beaucoup de familles, bien sûr.
Bien sûr. Allez, on y va. Attention.
Une Perlembourg, une Perlembourg.
Nya. Je m'en ferai pas. Il est magnifique ce nom.
Bien qu'inventé dans les années 90, quelle particularité d'Internet ne s'est démocratisée qu'au début des années 2000. Vous connaissez tous la réponse et vous auriez franchement du mal à vivre sans aujourd'hui. De quoi s'agit-il?
C'est vrai.
Non, ah, parce que moi je me souviens quand ça existait pas.
Ah ouais,
ouais.
Ah oui, bah oui, bah, il fallait être.
Ah ouais.
Si je donne pas la, ce que je voulais dire, parce que sinon je donne la réponse quoi. Mais il fallait être câblé.
Exactement.
Voilà.
Moi, dans mon premier appartement, mon studio là, à Unheim.
On l'a souillé.
Oui.
Et
je me levais le matin, je téléchargeais les pages internet sur mon canapé. Je débranchais, j'allais chier, je lisais sur l'ordinateur posé sur la poubelle. Mais il fallait se prévoir à l'avance.
Okay, ouais.
Et j'y repense souvent quand
c'est,
c'est le Wi-Fi.
Bah oui, le Wi-Fi.
Le Wi-Fi. Alors ça date quand même des années 90, ça je trouve ça dingue, mais c'est vrai que moi, voilà, en 2005 par exemple, je n'avais pas encore le Wi-Fi.
Ah non, ouais, bien sûr.
Ça s'est démocratisé un tout petit peu après. Et donc apparu pour la première fois en 97. Bon, les normes IEE 802.11, bon, on va peut-être pas forcément rentrer dans
non,
les détails, qui sont utilisées internationalement, décrivent les caractéristiques d'un réseau local sans fil WLAN.
Okay.
WLAN.
Ah oui, oui.
La marque déposée Wi-Fi correspond initialement au nom donné à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance.
D'accord.
Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WICA. Je pense que c'est le nom de l'entreprise.
Okay, okay.
Organisme ayant pour mission de spécifier l'interpolarabilité.
Pas mal.
Entre les matériels conformes à la norme 802.11 et de vendre le label Wi-Fi au matériel répondant à ces spécifications. Pour des raisons de facilité d'usage et de marketing, le nom de la norme se confond aujourd'hui avec le nom de la certification.
D'accord.
Donc c'est pour ça, on appelle ça le Wi-Fi.
Ok.
Mais en fait, c'est juste le nom de la norme qu'on utilise.
Ouais.
Vous voyez, on n'a pas trouvé d'autres noms. Donc on utilise ce mot en France, en Espagne, au Canada, en Suisse, en Tunisie, etc. Ainsi, un réseau Wi-Fi est en réalité un réseau répondant à des normes IEEE 802.11.
Ok.
Dans d'autres pays, Allemagne, États-Unis par exemple, bah, de tels réseaux sont aussi nommés par le terme générique WLAN, Wireless LAN,
ouais, c'est vrai,
réseau sans fil, réseau local sans fil.
D'accord.
Oui, quand vous arrivez dans un hôtel en Allemagne ou aux États-Unis,
ouais, ouais.
effectivement, vous ne voyez pas Wi-Fi,
non,
vous
non.
voyez
wireless,
voilà, WLAN.
Ouais.
WLAN.
Okay.
Info amusante, 1896.
Non.
Si, Guglielmo Marconi réalise les premières transmissions sans fil, télégraphie sans fil, après que Nikola Tesla a déposé les premiers brevets dans ce domaine.
1896. Donc,
la première transmission sans fil, c'est 1896.
Mais c'est incroyable.
C'est dingue.
Voilà,
c'est pour ça que je me suis permis de le rappeler, quoi.
Merci, Christophe. Merci.
Ah ouais, bien sûr.
Allez, question numéro 12. Quand vous écoutiez cette musique, vous dansez, Christophe?
Non.
Si. Non. Je vous ai jamais vu danser cette fameuse danse.
Non.
Qui a fait fureur entre 2006 et 2007.
Ah, quelle ça a duré
cette
deux
danse
ans.
Ça a duré déjà beaucoup trop longtemps, je trouve.
C'était incroyable. J'en ai quasiment jamais vu en vrai.
Ah ouais?
Mais à la télé, oui, beaucoup.
Là, je me souviens, j'étais dans une boîte à Cannes, quand je vivais à Cannes. Ouais. Et bon, voilà, ça c'est une autre... Il y avait une boîte qu'on était sur le Palais des Festivals. Enfin bon, voilà, c'était une autre époque. Et il y avait des personnes qui dansaient, qui faisaient cette danse. Et on disait, mais qu'est-ce qu'ils font?
Ah, vous ne saviez pas encore
quelle est,
de quoi il s'agissait.
Drogue, tu vois. Et ben non. Et en fait, ça venait d'arriver. Et c'était la tectonique.
Ah ouais.
Et bien sûr, des débardeurs fio, des crêtes, des pantalons slim, où j'ai écrit clim, mais bon, après, bon.
C'est pas grave.
Avec des chaussures trop grosses, ça nous manque.
Non.
Non, pas du tout. Clairement, la tectonique est une danse et un phénomène de mode français des années 2006-2007.
Ah, c'est français
et
en plus.
Ah ouais, là, j'ai pas envie de dire cocorico, là, sur ce coup-là. Initialement, tectonique désignait les soirées électro influencées par le hardstyle et le jumpstyle organisées au début des années 2000 par la métropole. Une discothèque située à Rungis.
Oh là, tu apprends, tu me prends 3 kilos de tomates et puis on va aller faire de la tectonique.
La popularité croissante de ces soirées a généré un impressionnant phénomène de mode pour la danse électro chez les adolescents à travers toute la France et dans le monde entier de 2006 à 2007. À partir de 2008, la popularité de la tectonique en France s'est rapidement émoussée et c'est pas plus mal. Voilà, question numéro 13, un petit joker.
Allez.
Une perle en bourre.
Quand on écoute bien, il se plaint déjà quand on...
C'est
écoutez,
vrai
écoutez.
Une perle en bourre. Une perle en bourre.
Non, arrête avec la perle en bourre, papa. J'en ai déjà bu 6 cet après-midi. Allez, question numéro 13.
Si aujourd'hui, vous pouvez si facilement utiliser Waze ou n'importe quel GPS, c'est grâce à un président américain.
Ah ouais?
Eh ouais. En effet, c'est lui qui a autorisé une diffusion non restreinte des signaux GPS. À votre avis, de quel président s'agit-il? On est entre 2000 et 2010.
Oui, on rappelle que...
Donc, il y a grosso merdo deux choix.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, bah...
C'est vrai. Ouais, ouais. Je ne savais absolument pas ça.
Donc, et encore, merci. J'ai envie de vous dire, oui, grosso merdo, ça se joue un peu.
Oui.
C'est Bill Clinton.
Bill Clinton.
Bill Clinton. Le Global Positioning System, GPS... En français, système mondial de positionnement.
Ah là là.
Au Québec, ben, je vois un merde, l'eau, elle est trop, et puis continuer. Originellement connu sous le nom de Navstar GPS, est un système de positionnement par satellite appartenant au gouvernement fédéral des États-Unis.
Ah ouais.
Eh oui, c'est américain. Okay. Mis en place par le département de la défense des États-Unis à des fins militaires à partir de 1973, le système, avec 24 satellites, est totalement opérationnel en 1995. Donc, il y a grosso modo...
Il n'y a pas si longtemps.
Oui, et il n'y a que 24 satellites de la Terre qui permettent de faire
d'accord.
Ça. À l'origine, le GPS était un projet de recherche des forces armées des États-Unis. Il a été lancé à la fin des années 60 à la demande du président Richard Nixon. La réalisation a été confiée à Evan A. Getting, qui a conçu le principe d'un groupe de satellites gravitant en orbite et émettant des ondes radio UHF capté par des récepteurs GPS.
Ils sont chauds les gars quand même.
En 1983, le président Ronald Reagan, à la suite de la mort des 269 passagers du vol Korean Airlines 007, propose que la technologie GPS soit disponible gratuitement aux civils une fois opérationnelle. Une seconde série de satellites est lancée à partir de 89 en vue de constituer une flotte suffisante. Et c'est en 2000, toute fin de son mandat, parce que George Bush arrive en 2001, le président Bill Clinton confirme l'intérêt de la technologie à des fins civiles et autorise une diffusion non restreinte des signaux GPS permettant une précision d'une dizaine de mètres et une démocratisation de la technologie au grand public à partir du milieu des années 2000.
Oh, sympa quand même, quoi.
Bah oui.
Oui, bon, ils se sont dit, ça après, peut sauver des gens.
Oui, non, puis ils se sont peut-être dit aussi, il y a moyen...
De
récupère des infos, voilà, bah oui, maintenant ils savent où on est.
Ouais. On est là, les gars.
Oui.
Personne ne nous répond. Mais merci. Merci, Bill.
Bah oui, merci, Bill.
Question 14. Quel groupe de rock a explosé dans les années 2000 grâce à des albums comme Schrei ou encore Zimmer, Firundert, Dryon Artich.
Les chiffres.
Firundert. Dryon Artich.
Ah, okay.
483. Quoi.
Ouais, ouais.
Dimmer 483. Un indice avec la langue utilisée pour lire ces titres d'album. Quel est ce groupe? Dimmer. 483.
Ja.
Voilà, ça y est, on y est.
Schrei.
Schrei, ça veut dire crier.
Ah oui.
Voilà, il y a un extrait en plus de Schrei. Si vous êtes gentil, je vous
passe. Oh non.
Si. Pas longtemps.
Ok.
Bon, c'est Tokyo Hotel.
Ouais.
Oui, bien sûr, Tokyo Hotel est un groupe de pop rock allemand, originaire de Magdebourg, formé en 2001 et constitué de 4 jeunes Allemands, dont des frères jumeaux. Le groupe compte
au total. Je savais pas que c'était des frères jumeaux.
Cet album, ouais, je crois
ça
le chanteur.
Ça ressemble
est,
pas
ouais,
tant que ça quand même.
Et énorme phénomène hein, médiatique sur Internet
ah bah oui.
Et dans le monde entier, notamment en Europe, à l'instar des boys bands des années 90. Ils connaissent un succès planétaire très populaire en France auprès des jeunes, provoquant des hystéries et parfois même des malaises et évanouissements de la part des jeunes adolescentes présentes lors des concerts et événements du groupe. Certains médias comparent même leur popularité et l'effet provoqué chez les fans à celle des Beatles, parce que ah c'était oui. incroyable. Bah,
il faut savoir qu'il y a une grosse génération de Français et Françaises oui. qui parlent allemand
mais
grâce à Tokyo
c'est
Hotel.
Ce que j'allais dire.
Ah pardon.
Ouais, non mais c'est pas grave, mais c'est vrai que
ah oui j'avais pas lu.
Maintenant, à l'époque tous les gamins voulaient comprendre les paroles, donc ils se sont lancés en allemand et ils regrettent peut-être maintenant 20 ans plus tard. Et petite info people.
Ouais vas-y.
Je sais que vous aimez bien. À savoir que Heidi Klum.
Ah ouais.
Magnifique Heidi Klum,
oui,
la fameuse
oui, oui.
mannequin allemande, oui, a épousé le guitariste du groupe Tokyo Hotel, Tom Kaulitz, qui a quand même 16 ans de moins qu'elle. Voilà.
C'est vrai, ils sont ouais. encore ensemble.
Et ils sont encore ensemble sur Instagram, on les voit partout là.
Ah, je sais pas. Ouais, ouais. D'accord. Il y en a un des deux qui vit dans le désert californien ou en Arizona. Parce que je suis plus ou moins sa voix officielle sur Arte,
ah
je sais pas pourquoi, mais
un
chaque fois
des...
qu'il y a un documentaire Tokyo Hotel, je fais l'un des.
Cheveux longs avec la barbe.
Ah, je sais pas s'il a une barbe, mais oui, okay. cheveux longs.
Ah bah ça doit être lié, alors c'est le mec qui est marié avec...
Ah bah il est jamais dans les documentaires Arte.
Eh ben voilà.
Bon, pas dans les passages où je passe.
Oui, parce que vous retrouvez également Christophe Ajus sur Arte.
Oui, bien sûr, la bande-annonce de Ghostbusters.
Également, oui, j'étais complètement fou.
Grande canicule.
J'étais complètement fou.
Les températures ont dépassé 38 degrés, bam, c'est tout. C'est bon,
oui.
l'enregistrement est terminé, tu peux
non,
y aller.
C'est incroyable. Franchement, je suis encore tout excité. Mais quoi.
Tout excité.
Christophe Ajus dans Ghostbusters, quoi.
Dans la bande-annonce.
Au moins dans la bande-annonce.
Même pas dans le film.
Non, mais c'est génial.
Allons-y.
Allons.
Nous recherchons un des pionniers des services de partage de fichiers en pair à pair. Le service spécialisé dans le partage de fichiers audio, en particulier de fichiers musicaux généralement encodés au format MP3. Vous avez trouvé ? On l'a tous.
Oui.
Me faites pas semblant.
Non, c'est vrai. Non, d'accord.
Ah si.
Si, on l'a tous.
C'est non, mais je veux dire, on peut l'avoir oublié, mais on l'a tous utilisé.
Oui, oui,
c'est
oui.
ça que je veux dire.
Et après, c'était... Après ça, ils ont lancé sous le même nom, comme Spotify en fait, sous le nom de
d'accord,
ouais. Napster.
Napster, oui, ah, merci. Oui. Voilà, il me balance mes réponses. Napster, exactement. Le service permettait à ces millions d'utilisateurs d'échanger facilement des chansons, ce qui a conduit l'industrie de la musique à porter plainte.
Bah ouais, ouais.
Non, à porter l'industrie de la musique à porter. Contre Napster, des accusations de violation massive du droit d'auteur. Le service a alors dû cesser ses activités et a été acquis par Roxio.
D'accord.
Il a fonctionné entre juin 99 et juillet 2001. Donc c'est quand même c'est dingue,
quand
c'est
même,
court.
Hein. Ouais.
Mais moi je m'en souviens comme
tout
si c'était hier. Il a ouvert la voie à de nombreux autres programmes pair à pair, peer to peer en anglais, hein, bien sûr, on connaît peut-être mieux ce terme, semblable. Nutella, Freenet, Kaza,
Larmoyer.
Scar Inc. Bon, ça, à partir de là, je connais plus.
Si, Idonkey, ouais, ça.
Bah oui, Idonkey, ouais, ouais. oui. Idonkey 2000, ouais. Madster, entre autres, voilà, et plusieurs autres. Certains de ces services ont implanté une architecture décentralisée, ce qui les a rendus beaucoup plus difficiles à contrôler par l'industrie de la musique. Dans sa seconde incarnation, la marque Napster ainsi que son logo ont été achetés par le groupe Best Buy. Pour son magasin de musique en ligne.
Ah ouais.
Et le 1er décembre 2011, Best Buy a vendu la marque et le logo à Rhapsody.
D'accord. Il y avait Imul aussi.
Oui, mais alors ça, c'était pas pour. C'était plus pour les
films.
Les
films, oui, c'est vrai.
Là,
oui,
on était vraiment
vrai,
dans la
vrai,
musique.
C'est vrai. Bon, c'est vrai que moi, je téléchargeais sur Imul les albums entiers. À l'époque.
Bah oui, bien sûr.
Et
non,
du
bah,
coup, quand je recevais le fichier, c'était un film porno. Bon, bah voilà, comme
non,
tout.
Non, c'était plus dans les films. Non, la musique, on recevait de la musique.
C'est
mais
vrai.
Effectivement, vous téléchargez le dernier film à la mode et c'était bah, un vieux film porno des années 70 allemand et qui faisait la joie du vin. Alors.
Question numéro 16. L'histoire est folle. Attention.
C'est vrai.
Oui, c'est fou. Quelle chanteuse américaine, star des années 2000, aurait, selon une théorie du complot, été remplacée par un sosie suite à sa présumée mort en 2003?
C'est vrai?
Bah, c'est ce que disent les théoriciens du complot.
Ok.
Vous connaissiez cette histoire?
Non.
J'avais un extrait pour donner un indice, mais on me demandera ça pour la réponse. Ou je le mets tout de suite, l'extrait?
Allez.
Ça, c'était l'extrait de...
Tokyo Hotel, oui, bah oui, je me souvenais pas qu'elle ait chanté en allemand.
Tell me,
frustrated. Life's like this, you. And you fall and you crawl and you pick what you get.
Ah merde, j'ai raté.
C'est pas facile. Ah oui,
je suis amoureux.
On l'a tous été.
Oui, c'est vrai.
C'est elle aussi qui reprend Bob Dylan.
Je crois qu'elle a fait une reprise
de
Bob
policier,
Dylan.
Le policier là, qui la bande originale d'un film. Maintenant, j'ai oublié.
Avril Lavigne, en tout cas.
Oui,
voilà,
c'est elle.
C'était Complicated. Elle a fait parler d'elle sur Twitter le samedi 13 mai 2018.
Ah bon ?
Oui, selon une mauvaise blague, elle serait morte en 2003.
D'accord.
Elle aurait été remplacée par un sosie dans ce thread,
thread, ouais.
De plusieurs dizaines de messages. L'utilisateur s'appuie sur des rumeurs, photos et schémas tendant à montrer qu'Avril Lavigne aurait été remplacée par une jeune femme prénommée Melissa Vandela à la suite de son décès en 2003. Un remplacement qui aurait été décidé par la maison de disques d'Avril Lavigne dans l'espoir de continuer à gagner de l'argent avec son personnage. Et la vraie Avril Lavigne serait toujours, d'après la fausse information répandue sur les réseaux sociaux, suicidée en 2003 après la mort de son grand-père, dont elle ne se serait jamais remise. Mais en 2019, bien sûr, Avril Lavigne a démenti.
Oui,
bien sûr,
bah, voilà. Je le dis, c'est normal que, je veux dire, même si c'était vrai, elle aurait démenti.
Oui, quand même.
Mais cela dit, c'est bien mal comprendre l'industrie du disque, hein, parce que vaut mieux un artiste mort.
C'est pas faux, ouais.
Enfin, il me semble, hein, je veux dire, les artistes morts en général rapportent.
Ouais, écoute,
moins cher.
Johnny vient de sortir un nouveau titre hier, donc.
Voilà.
Et c'était pas la première fois qu'une star faisait l'objet d'une telle rumeur, bien avant l'ère d'Internet.
Ah oui.
Certains racontaient que Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture en 66 et aurait été remplacé par un sosie. Voilà.
Il n'y avait pas toutes ces histoires avec l'album blanc et tout
ça,
des indices qui disaient qu'effectivement.
Après, si on cherche, on trouve.
Oui.
Voilà.
Ça, c'est... Merci. Voilà. Mais oui, mais apprenez la vie avec Charlie Weber.
Je sors un livre bientôt. Allez, on y va. Question numéro 17.
Nous recherchons une série qui relate l'histoire des dernières années de la République romaine depuis la fin de la guerre des Gaules jusqu'à l'avènement d'Auguste. Mais ces deux personnages principaux sont deux soldats romains qui se retrouvent pris dans la tourmente des événements. Vous l'avez reconnu ?
Oui.
C'est vrai ?
Non.
Ah, elle était super populaire.
Oui, clairement, mais j'ai jamais regardé.
Moi non plus.
Ouais.
Mais
c'est vrai que c'était très populaire.
Beaucoup de nos camarades l'a regardé.
Ouais.
Beaucoup de violence, de sexe.
De sexe, beaucoup.
Ouais.
Et mais j'aime pas ça, donc.
Moi non plus.
Mm-hmm. La violence ou le.
Les deux, en l'occurrence.
Oh.
Rome.
Oui.
Rome. La réponse était plus ou moins dans la question.
Oui.
Rome est une série télévisée américano-britannico-italienne en 22 épisodes seulement, répartis en deux saisons, créée par John Milius, William J. McDonald et Bruno Heller. Est diffusé initialement de 2005 à 2007, série télévisée au budget le plus élevé de l'histoire à l'époque. Production. Ouais, mais quand même. Rome a connu un succès critique et commercial et a été plusieurs fois nommé aux Emmy Awards et Golden Globes, remportant au total 7 Emmy Awards.
Quand même.
Initialement prévu à 5, le nombre de saisons a cependant dû être ramené à 2 en raison justement du coût trop important des épisodes de la série. À l'origine prévue pour comporter donc 5 saisons, la série s'est arrêtée au bout de 2 en raison... Putain les mecs, oh ça va. Ils répètent. Alors bon, cette décision de n'avoir que 2 saisons a été prise par HBO durant le tournage de la saison 2.
D'accord.
Et ça a ainsi poussé Bruno Heller à intégrer les principaux éléments qui étaient prévus pour les saisons 3 et 4 dans celle-ci, ce qui explique la façon dont les événements s'accélèrent tout d'un coup durant la deuxième saison, la deuxième partie de la deuxième saison.
D'accord.
On sait ainsi que les saisons 3 et 4 devaient se dérouler en grande partie en Égypte et que la saison 5 devait traiter de l'ascension d'un certain Messie en Palestine.
Le joueur.
Qui finira effectivement au Paris Saint-Germain avant de partir en Arabie Saoudite.
Oui.
En février.
Il est aux États-Unis.
Ah oui, c'est vrai, oui, je confonds.
Avec
Pardon, Lionel.
Bien sûr.
En février 2008, l'acteur Ray Stevenson, interprète de Titus Pullo, a annoncé dans une entrevue qu'un projet de film sur Rome était en cours de développement avec Bruno Heller pour écrire le scénario. Et en mars 2010, il est confirmé qu'Heller a terminé le scénario et qu'il est désormais à la recherche d'un metteur en scène et d'un distributeur. Et on est en 2023.
Et ça fait 13 ans.
Voilà. Ça fait plutôt 15, mais vraisemblablement, selon mes recherches, il cherche toujours, puisqu'effectivement, le film n'a pas eu lieu.
En tout cas, on attend. Faut vous bouger, les gars. Allez, question numéro 18, un petit joker.
Une perle en bourre.
Non. Oh, toujours aussi cute. Gabriel, qu'on embrasse. Allez, question numéro 18. Avant de devenir Tom Delorme, le personnage principal de la série Camping Paradis.
J'adore.
Ouais, mais moi aussi, j'aime bien.
C'est, moi, je trouve ça nullement formidable.
Bah oui, c'est ça. C'est plein de belles, de bonnes.
Mais
bonnes
oui, ondes. On sent les mecs se caillent.
Ouais, grave.
Ils sont sous-habillés, mais eux, oui, ils tournent en hiver. Et ils se caillent et tout. Et ils ont quand même la joie, ils ouais. sont heureux. C'est formidable.
Ils doivent gagner beaucoup d'argent pour faire ça.
Et puis, il y a des guests de ouf ouais, à chaque fois que je tombe sur un épisode. Oh, mais que fait cette personne?
On aime bien. Laurent Ronac, bien sûr, a été découvert dans une émission de télé-réalité diffusée en 2005 avant de faire justement Camping Paradis. C'était sur TF1, mais quelle était cette émission? Vous vous en souveniez?
Bien sûr.
Oui, vous connaissiez le nom encore?
Oui, oui.
Ah ouais?
Clairement, oui, oui.
Ok.
Quand même.
Oui, ok.
Non, c'était. Ouais, c'était ça avait marqué peu, la ouais. télévision et c'est vrai qu'il était classe. Le deuxième était pas mauvais non plus, ouais, mais c'est vrai qu'il
Le premier était bien. Il était,
c'était le premier.
Ouais, Mon incroyable fiancé.
Ah oui.
Est une émission de télé-réalité française diffusée sur TF1 et présentée par Delphine de Turckheim.
Est-ce qu'elle est de la famille de Charlotte?
Bah, peut-être.
Merci.
On ne saura pas. C'était en 2005 et Céline Catala en 2009, puis par Elsa Fayer en 2014. Toutes ces personnes dont on ne se souvient plus.
Ah si, Elsa Fayer, oui, oui, grande présentatrice, enfin grande. Elle a une grande carrière.
Okay,
je crois qu'elle continue à bosser aujourd'hui.
Bah, je leur souhaite.
Très mimi, Elsa Fayer, qui faisait partie de l'équipe pardon, de Ruquier dans On a tout essayé, notamment.
Oui, d'accord, je me souviens. Le programme est présenté comme une émission de télé-réalité de comédie qui consiste à réunir deux candidats pour former un couple improbable en leur promettant une somme de 100 000 euros chacun s'ils parviennent à faire accepter à leurs familles respectives leur mariage. Ce jeu est la version française de My Big Fat Obnoxious Fiancé.
Obnoxious.
Oui, merci.
Je vous en prie. Mais ils ont quand même lissé, voilà. lissé le titre.
Parce que le nom est horrible. My Big Fat.
Ouais,
quoi.
Mon gros chiant fiancé.
Ouais,
mon fiancé
ça.
Gros et chiant.
C'était
quoi.
Sur la Fox qui a également été adapté dans d'autres pays comme en Allemagne. Mein großer Dicker peinlicher Verlobter.
Oh putain.
C'est horrible.
Mais Dicker, vas-y, Dicker.
C'est gros quoi, le gros.
Ah oui, Dicker, ouais, oui. oui. Non, parce que les gens qui parlent un peu anglais doivent se dire ma grosse
non, non.
pita. oui, c'est vrai que alors les Allemands aiment bien les faux amis. Un bita, ça veut dire de rien. Dicker, ça veut
c'est
dire
vrai,
gros.
Gros ouais. Plus gros. Dick, c'est gros. Dicker,
oui.
c'est plus gros. La première saison est jugée navrante par le journal Libération. Le journal François a écrit qu'avec Mon incroyable fiancé, TF1 repousse les limites de la vulgarité.
Ah, ils avaient encore rien vu, les gars.
Oui, c'est clair. Et deux sociologues y décèlent une exploitation ambiguë
ouais.
de l'obésité. Peut-être un peu, les gars, quand même.
Ouais, mais bon voilà. c'est l'histoire.
Oui, voilà.
C'est moi le gros, c'est toi le petit.
Oui, Laurel et Hardy.
Laurel et Hardy,
voilà.
déjà. Enfin,
oui,
bon, voilà, ça fait partie du jeu.
Alors, Laurent Ronac.
On est tous les deux gros, donc on sait de quoi on parle.
Je suis plus gros que vous. Laissez-moi gagner au moins
une fois.
Ah, je croyais
dire je suis plus gros, point.
qui joue le rôle de Laurent Fortin, donc Laurent Ronac, il est décrit comme personnage grossier, maladroit, extraverti. Il a pris 35 kilos pour mieux représenter son personnage. Et il adore avaler des tartines de Brio Nutella et pratique la danse du ventre en slip.
Ouais.
C'était son personnage.
Bravo.
Ça nous ressemble presque.
Non.
Non, bah non.
Bah non, je mange,
ah non,
je
mange pas
très
de brie Nutella.
Et franchement, le problème, rarement on slip.
C'est vrai. Question numéro 19. Allez.
Nous faisons partie des vieux qui avons encore connu le franc.
Oui.
Au début, on calculait d'ailleurs tous les prix
c'est
en
vrai.
Francs. Je sais pas quand on a arrêté de le faire, mais croyez-nous, pour ceux qui n'ont pas connu cette période, on le faisait.
Oui.
On arrivait quelque part, 3 euros. Alors 3 euros fois 6.
Ça
fait trop.
Ouais. Ouais.
Bon, bref, on a connu ce 1er janvier qui a marqué les débuts de l'euro comme monnaie officielle. Mais c'était en quelle année?
Eh oui, bien sûr.
J'ai posé la question hier à quelqu'un, il m'a dit la bonne réponse.
Ah ouais?
Moi j'avais totalement zappé.
Ouais, j'aurais mis une année avant moi, tu vois.
Ok.
Ouais. Mais oui, 15 euros par exemple, ça faisait 100 francs.
Oui, voilà, on avait retenu cette chose-là. 2002!
Eh oui.
L'euro, symbole monétaire, le symbole de l'euro.
Oui.
Eh oui, parce que je ne vais pas pouvoir vous le.
C'est un E avec deux traits.
Mais un E dans l'autre sens.
Ah oui.
Et la monnaie unique de l'Union économique et monétaire formée au sein de l'Union européenne.
Oh,
en 2023, elle est commune à 20 États membres de l'Union européenne qui forment ainsi la zone euro.
Oh, oui.
L'euro est la deuxième monnaie au monde pour le montant des transactions, derrière le dollar américain et devant le yuan chinois. Et depuis octobre 2006, elle est la première monnaie au monde pour la quantité de billets en circulation. Ça, c'est les Allemands, ça.
Oui, c'est ça.
Ah ouais, les mecs, ils ont toujours des billets.
Et toujours Dicker. Dicker, billets.
Voilà.
Bitter, et voilà, tout ça. Ok, l'euro.
1er janvier 2002, donc. C'est vrai qu'on a fêté les 20 ans de l'euro l'année dernière.
Sachez que vous, les jeunes qui nous écoutez.
Vous, les jeunes!
Nous, on payait en francs. Et à l'époque, nos parents nous parlaient en vieux francs.
Oui, c'est ça. Nous, on a notre première 25 années de vie, on a passé du temps à calculer pour rien.
Ouais, c'est ça. Allez, c'est la dernière question, dernier passage pour le Joker.
Une perle en bourre.
Ah, il en veut pas, il en veut toujours pas.
Moi, il a raison.
Oui, bah,
tiens bon, Gabriel.
Quelle voiture mythique a été produite pour la dernière fois le 30 juillet 2003 dans une usine de Mexico ?
Mexico.
Sous le soleil qui chante. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour.
Ah oui. Voilà, la tournée s'organise. Hein. On a des pistes.
Ouais.
On reçoit du courrier.
Ouais.
Des impôts.
Avec
mais
de l'anthrax dedans. Oh, c'était en 2000 d'ailleurs. C'était dans la décennie 2000-2010.
Ah,
en
fait. Vous avez pas failli poser la question.
Ouais, c'est ça. Okay. Bon, la réponse, c'est la coccinelle, bien sûr. La Volks.
Non, pas bien sûr. Franchement, c'est pas facile. Bah, vous saviez quoi avant de poser la question.
Mais j'adore. J'ai toujours rêvé d'avoir
dans une usine de Mexico en 2003.
Oui.
La dernière fois.
C'est la dernière fois.
Mais ils en ont ressorti une.
Mais la vraie coccinelle. Okay. Voilà. Donc la coccinelle est l'automobile la plus vendue de tous les temps, construite par le constructeur allemand Volkswagen, créée pour l'occasion et dont le nom signifie voiture du peuple, apparue en 1938. Elle a été conçue par l'ingénieur autrichien Ferdinand Porsche.
Oui, justement, je me suis renseigné il y a pas longtemps.
Ah oui,
parce que j'avais oublié, je ne savais pas que Porsche était allemand.
Oui. Et à la demande d'un certain chancelier.
Ouais, bah de l'époque. Hitler, bah voilà. Oui, on est en 38, on voit ça. À peu près quelle époque.
Alors à la tête du Troisième Reich allemand, d'abord outil de propagande pour le régime national socialiste, elle deviendra après-guerre célèbre de par le monde pour sa production de quantité exceptionnelle, ainsi que sa longévité. Elle dépasse le 17 février 1972 le record mondial de diffusion auparavant détenu par la Ford T. C'est une des premières voitures, vous vous souvenez, on l'avait appris au collège.
Non. Bah, Henry Ford, oui, bien sûr. Mais la Ford T,
ouais,
non.
Moi, je m'en souviens. Elle fut au total produite à plus de 21 529 464. Merci.
On arrête là. Allez,
fin du podcast.
Dernier épisode. On faut arrêter sur une victoire là.
Elle est initialement dénommée la KDF Wagen pour Kraft durch Freude, la force par la joie.
Ah oui. Ils avaient des beaux slogans à l'époque.
Les gens des national-socialistes. En raison de ses formes très rondes, elle est souvent surnommée affectueusement le scarabée, dans différentes langues, Käfer en Allemagne, Beetle au Royaume-Uni, Käfer aux Pays-Bas, Escarabajo en Espagne, mais on l'utilise.
Ro peut-être, non, vu qu'il y a un J.
Ah oui, la Rota.
Ah si.
Escarabajo. Mmh. Ok, on l'a pas du tout.
Non.
Et on l'appelle Maggiolino Anton en italien.
Okay.
Et coccinelle en France et au Québec, bien sûr, la Volkswagen fut remarquée à sa sortie en 1938. Mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, elle ne fut vendue qu'à partir de 46. Donc on a attendu presque 8 ans.
Presque la fin de la guerre, quoi.
C'est-à-dire
qu'on avait autre chose à foutre que vendre des bagnoles.
Un peu.
Surtout des bagnoles allemandes.
En plus.
Ah, on est en train de les bombarder. Vous voulez une petite bagnole allemande?
Ça fait pas cher.
Avec votre ticket de pain.
Voilà, c'est ça. Oh. Allez, bah, c'est la question bonus.
C'est la question bonus et elle est à vous.
Elle est à moi, cette question. Voilà. Vous connaissez le big deal?
Ouais.
J'ai pas le générique, j'avais...
Oh, pourquoi il n'y a pas le générique?
Parce qu'en fait, il y a eu 1000 génériques et tous les sons étaient dégueulasses, comme la trilogie.
Ok.
Voilà. Combien y a-t-il eu d'émissions entre 98 et 2004 du Big Deal? Avec... Y avait Ramucho au Big Deal?
Je sais plus
si c'était jeu de mots Ramucho.
Il y avait Bill,
ouais, bien sûr. Une première émission à co-animer avec un personnage 3D, quoi. Il est en 3D, Bill.
Ouais.
Voilà. 1395 émissions.
D'accord, voilà. C'est vraiment une question sans intérêt, hein, à tel point qu'on vous a même pas rappelé le principe, hein, fallait s'approcher au plus près. Entre 98 donc et 2004, 1395, big deal.
Et ça fait 20 points si jamais vous êtes le plus.
Là, on est dans les infos, mais vraiment inutiles. Parce que c'est qu'est-ce que quoi? Alors demain à table, tu sais combien il y a eu des. Mais ferme ta gueule
voilà,
avec ton 40 mètres, les gars.
Chier avec ton podcast de merde.
Le quiz,
pardon, j'étais dans la vulgarité.
Oui.
Merci à tous d'avoir passé à nouveau ce moment avec
désolé.
Vous.
Si, désolé.
Et n'hésitez pas à vraiment partager le podcast. N'hésitez pas à nous laisser également des notes sur Apple Podcast, sur Spotify. On peut même nous laisser des petits commentaires, ça nous fait plaisir. Des vocaux comme l'a fait Florian et Gabriel.
Votre famille.
Voilà, c'est ça. Merci à vous, puis on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de 15 minutes, les gars.
Le quiz.
Merci Christophe.
Merci Charlie. Bisous à toutes et à tous.
Bisous.